La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Ça y est, on est au mois de décembre. Il s'agit du dernier mois de l'année avec des jours très courts et encore moins de soleil que d'habitude. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 8h25 et s'est couché à 16h57. Je fais le calcul, on a eu le droit à 8h30 de soleil, sans compter les quelques minutes de pluie. Si on poursuit le calcul, en moyenne, en ce moment, on a 16 heures d'obscurité. 16 heures, c'est un peu long. En réponse à cette obscurité, les municipalités regorgent d'idées, mais aussi et surtout de lumière. Et c'est sur ce terrain que je vous emmène ce soir, les illuminations dans les communes. Je dois avouer que quand j'étais petit, je ne comprenais pas du tout cette obsession pour les lumières. Depuis ma chambre, j'avais la vue sur une avenue couverte de guirlandes reliée de part et d'autre à des candélabres et je l'ai trouvé cheap. Vraiment. Je ne comprenais pas l'intérêt. Pourtant, je sortais de chez moi avant l'aube pour aller au collège, puis au lycée, plus jeune. Je pouvais comprendre qu'il y avait quelque chose de satisfaisant. Ça n'a jamais été le cas en ce qui me concerne. Jusqu'au jour où j'ai mis les pieds à Strasbourg, en période de Noël. Pour celles et ceux profanes, Strasbourg est la capitale de Noël avec son célèbre marché. Simple, il n'y en a pas un, mais plusieurs répartis dans la ville. Sur la place Breuil, place Clébert avec le célèbre sapin, au niveau du palais Rohan, dans le quartier de la Petite France ou encore au niveau des ponts couverts. Les illuminations de Noël offrent la possibilité à tout un chacun de poursuivre la journée sous une lumière qui fait du bien et incite à profiter de boissons chaudes et d'autres gourmandises. Les illuminations sont l'opportunité de sortir pour vivre la ville, les villes, encore et toujours, et ne pas sombrer dans la morosité de la fin de l'année. Aujourd'hui, passer sous des guirlandes illuminées, que ce soit dans la ville lumière, dans la capitale alsacienne ou encore dans la ville de mon enfance, me fait du bien. Je me dis que l'automne est une belle saison, en journée, avec ses feuilles mortes aux couleurs jaunes et érables, et en soirée, avec ses avenues claires et hospitalières, du début de la soirée à l'aube, quand la ville se réveille. L'automne est une saison qui se célèbre, des belles journées qu'on regrette jusqu'au solstice d'hiver à deux pas de la soirée de Noël, et ce n'est pas parce qu'on perd des heures d'ensoleillement qu'on ne peut pas poursuivre la fête jusqu'au bout de la nuit, et dans ce cas, jusqu'au bout de l'année. Ce soir dans la matinale, on parle alimentation, musique et santé. Dans la première partie de l'émission, l'entretien de la matinale sera consacré à la sécurité sociale de l'alimentation. Avec Philippe de la rédaction de la radio, nous échangeons avec le collectif La Marmite Rouge. Dans la deuxième partie, Léa recevra Thiago Caetano pour le Zoom à l'occasion de la sortie de son dernier opus. L'émission sera aussi ponctuée des chroniques de Fabien et Léa. Radio Campus Paris, c'est sur le canal Campus en DAB+, sur la FM à la fréquence 93.9 en Ile-de-France et sur le site radiocampusparis.org. Le programme est annoncé, la matinale peut démarrer.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et avec moi pour m'accompagner ce soir, l'entretien de la matinale sera mené par Philippe. Salut Philippe, comment tu vas ?
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Ça va la forme ?
Ça va, très bien.
Super.
Donc la Marmite Rouge est une association localisée dans le 12e arrondissement de Paris, militant pour la sécurité sociale de l'alimentation. Bonjour Margot Varache.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, vous présenter vous-même ? Pourquoi la Marmite Rouge ?
Alors l'association, c'est donc, comme vous l'avez dit, une association militante composée d'une vingtaine de militantes et de militantes, toutes bénévoles. On est basé près du marché d'Aligre dans le 12e arrondissement. Et on est axé sur la sécurité sociale de l'alimentation avec deux missions principales. La première étant une mission de sensibilisation et d'éducation populaire à la SSA, donc sécurité sociale de l'alimentation, avec des ateliers et des fresques qu'on donne auprès d'autres collectifs et une fois par mois à l'Académie du climat à Paris, dans le premier. Et un deuxième axe d'action qui est plutôt axé sur... L'expérimentation du concept de SSA. Avec l'année dernière, on a fait une expérimentation qui s'appelait les baguettes magiques autour de la baguette. Je sais si vous avez des questions là-dessus, on pourrait y revenir
plus
tard.
Oui, on va en parler, je crois.
Et là, on est en train d'essayer de voir quelles peuvent être les modalités d'une nouvelle expérimentation plus large à l'échelle du 12e ou plus large aussi, avec l'ambition d'abord d'essayer de créer un collectif auprès de cette thématique.
Oui, alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur le fonctionnement justement de la sécurité sociale de l'alimentation ? Ça me paraît être très important. Il y a le système de conventionnement, le système de financement assuré par des cotisations. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus justement ?
Oui, alors aussi peut-être pour préciser avant de rentrer dans le détail, c'est encore quelque chose et une idée politique. La mise en place et les modalités d'implémentation sont testées à différentes échelles, mais il n'y a pas une version encore qui existe qui fait consensus. Donc c'est peut-être un préambule. Je vous parlais aujourd'hui de la vision du collectif national de la SSA et de la Marmite Rouge.
Il y a d'autres versions qui existent ?
Il y a plus des débats autour des modalités.
Des modalités, oui.
Mais donc,
les débats ont lieu avec quelles autres associations ?
Alors, donc, il y a un collectif national qui a été fondé en 2019, je crois, dont la Marmite Rouge fait partie. Et c'est via des associations comme, ou des collectifs comme ISF Agrista, Réseau Salaria, la Confédération Paysanne, VRAC, et il y en a une trentaine d'autres, qui essaient de déjà se mettre d'accord sur quelles peuvent être les modalités, qui font du lobbying aussi, dans le bon sens du terme, auprès de députés qui essaient de porter des lois sur ce sujet. Et aussi, il y a des expérimentations qui existent et qui essaient de mettre en place. Et les expérimentations peuvent être portées par des mairies, comme à Paris, la mairie du 20e, du 14e, qui le mettent en place d'une certaine manière, mais ce n'est pas forcément la vision de tout le monde.
Donc, si on doit synthétiser ce qui vient d'être dit, le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est un collectif qui regroupe une trentaine de membres, dont la Marmite Rouge fait partie.
C'est ça.
Et c'est un collectif de réflexion, mais aussi de lobbying pour pouvoir définir et mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, si j'avais bien compris.
C'est ça, et puis mettre à disposition tout un tas de ressources sur leur site. Il y a beaucoup de ressources et appuyer éventuellement les expérimentations qui existent aujourd'hui dans la mise en place.
Donc pour revenir à la question, est-ce qu'on peut revenir sur les trois piliers du mécanisme ? Donc on le disait dans un premier temps, l'universalité du processus. Le deuxième pilier, un conventionnement des produits accessibles. Et dans un troisième temps, le financement.
Oui, alors du coup, ce qui est important à dire, c'est que la sécurité sociale de l'alimentation donc, vise à élargir la sécurité sociale de la santé à l'alimentation, avec trois piliers très importants. Donc, l'universalité, c'est le fait que chacun ou chacune des résidents, résidentes d'un territoire défini puisse avoir accès à ce service, à ce droit, et pas forcément en fonction de ses revenus ni en fonction de sa nationalité.
Donc ça veut dire que c'est national, l'objectif alors, c'est national.
L'objectif est national. Aujourd'hui, les expérimentations sont à l'échelle locale et si on va y revenir peut-être dans le fonctionnement des caisses, c'est quelque chose qui doit rester à l'échelle locale, qui peut être mis en place par une loi, garantie par une loi nationale, mais qui reste à un fonctionnement local. Le deuxième point assez important et pilier, c'est le côté démocratique. Et c'est là où ça peut se différencier de l'aide alimentaire, c'est le fait que ce sont les participants à ces caisses de SSA qui définissent eux-mêmes en fait quels vont être les produits, les commerces, les producteurs qui vont être conventionnés. Et donc, on reprend un peu du pouvoir dans l'assiette, comme on dit. Et ce n'est pas forcément une alimentation qui soit subie, elle est choisie. Les critères de conventionnement vont être décidés collectivement à l'échelle d'un territoire et donc c'est pour ça que je disais que certains critères peuvent fonctionner dans un territoire et peut-être pas dans un autre, donc on va pas pouvoir le définir forcément d'une manière unie au niveau national. Ce que moi considère comme étant quelque chose de bénéfique peut être considéré autrement par quelqu'un d'autre, donc c'est autour des débats. Cette démocratie, elle doit être éclairée, donc les participants aux caisses vont suivre un parcours de formation qu'on appelle parcours d'engagement qui permet au collectif de prendre des décisions éclairées. Et donc le côté démocratique est assez important là-dedans.
Dans le choix des producteurs, ça risque de ne pas être évident de choisir tel ou tel producteur, ça risque de grincer des dents un petit peu.
Oui, alors c'est sûr que aujourd'hui l'offre par exemple pourrait ne pas correspondent si on prend des critères, par exemple, on veut que ce soit des produits biologiques, de manière saisonnière, etc., qui répondent à certains critères environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, l'offre ne peut pas forcément y répondre, mais l'idée, c'est que les cotisations peuvent aussi permettre éventuellement de financer la transition de certains acteurs. Mmh. Et donc, c'est sûr, après, qu'il y a des débats sur qu'est-ce qui est bien, entre guillemets, mais c'est... l'objet de se mettre d'accord.
Pour revenir sur le dernier pilier, le financement, il est, alors, d'après le site, un financement assis sur une cotisation basée sur la valeur ajoutée produite par l'activité économique. Est-ce qu'on peut juste préciser ce point-là ?
Oui, bon, alors encore une fois, les modalités de financement font parfois débat, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, ça pourrait être financé via des cotisations. Donc l'idée, et c'était le troisième point, c'est aussi des cotisations, donc c'est un fonctionnement solidaire, où chacun cotise à hauteur de ses revenus pour que l'argent, collectivement, on décide d'où il soit alloué et où est-ce qu'il soit alloué. Donc, c'est financé, et ce serait financé par des cotisations
sociales,
donc sur le salaire, mais ça pourrait être d'autres modalités. Aujourd'hui, les expérimentations sont financées soit par des subventions privées ou publiques, soit par des cotisations volontaires. Mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'une loi soit mise en place, c'est pour que ce puisse être mis en place par des entreprises et que ce soit via la valeur ajoutée du travail qui permette de financer ce système.
On a parlé des piliers, est-ce qu'on peut parler aussi des principes indispensables ? C'est ceux qui sont cités, il y en a 4 ou 5, alors un cinquième réservé aux collectivités, est-ce qu'on peut en parler ?
C'est-à-dire
que sur le site, quand on regarde avec les... comment dire, avec les trois piliers dont on vient de parler, il y a aussi les principes indispensables, mais on pourra y revenir un peu plus tard. On peut aussi s'intéresser aux différents outils pédagogiques mis en place pour pouvoir aborder le sujet de la sécurité sociale.
Oui, alors peut-être que pour les outils, on peut aussi parler de la carte vitale de l'alimentation.
Oui, outil... assez majeur.
C'est ça. Donc, l'idée, c'est que pour que ce soit concrètement mis en place, on parle d'avoir, par exemple, une carte vitale de l'alimentation qui serait créditée de 150 euros par mois et par personne. Après, en fonction du foyer, de la taille du foyer, ça peut augmenter. Qui puisse après être utilisée dans les commerces ou auprès des producteurs ou sur les produits conventionnés. Aujourd'hui, dans les expérimentations qui existent, ça peut passer par une monnaie locale, par exemple, la Mona. Ça peut passer par des coupons, ça peut passer par plein de formes différentes. Donc, aujourd'hui, cette carte vitale n'existe pas, mais ça pourrait être le cas demain.
Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres outils liés à la sécurité sociale qui sont en cours de réflexion ou...
Alors, nous, en outils de sensibilisation, donc on a la fresque de la SSA qui a été créée par la Marmite Rouge il y a 2 ans. On est en train de la mettre à jour, mais en tout cas, c'est un outil qui permet, durant un peu comme la fresque du climat, sur un atelier de 3 heures, qui permet de se rendre compte, de faire l'état des lieux du système agroalimentaire actuel, et derrière, d'essayer de réfléchir à des pistes de solutions, mais plutôt un outil pour présenter concrètement à quoi ça pourrait ressembler à une caisse de SSA, quels sont les acteurs et comment ils interagissent entre eux.
Oui, en allant sur votre site internet qui est vraiment très fourni intellectuellement, c'est très intéressant. Il y a un reportage très intéressant qui s'est fait dans la Drôme, je crois, où on parle beaucoup du système alimentaire. On interroge les gens, quelle est votre conception du système alimentaire ? Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus ? Quelle est votre conception d'un système alimentaire, justement ?
Alors, moi, personnellement, un système alimentaire, c'est un système qui pourrait permettre à tous et toutes de pouvoir avoir accès à une alimentation qui soit choisie, qui ne se fasse pas et qui soit produite de manière durable, donc qui se fasse pas au détriment, on va dire, de la santé des individus, ni au détriment de la biodiversité du vivant, et derrière qui puisse permettre à chacun d'en bénéficier et de choisir son alimentation.
Donc ça repose effectivement sur une correction des inégalités, parce qu'effectivement on sait très bien que les gens, en fonction de leurs moyens, de leurs revenus, donc là vous essayez de corriger un nivellement des cotisations. Je voudrais connaître quels sont vos partenaires, les partenaires de votre association. C'est des partenaires locaux ou nationaux ?
Alors aujourd'hui, l'association n'a pas de, enfin, on ne fonctionne pas sur des subventions ni privées ni publiques. Donc les partenaires qu'on a, donc on fait partie du collectif national, comme je parlais juste avant. Après, on intervient auprès d'autres associations, notamment bah, l'association Copain, qui est une association étudiante et qui essaie de mettre en place ce système de SSA. Après, on peut intervenir pour faire des formations soit auprès de collectifs qui essaient de monter des caisses. Donc, on est intervenu auprès donc, de copains, d'autres collectifs qui essaient de s'éduquer, de sensibiliser à ces thématiques qui nous sollicitent ou l'Académie du Climat où on intervient. Ouais.
Vous intervenez, je crois, mensuellement à l'Académie du Climat.
C'est ça. Et on va faire un événement le 18 janvier autour de la SSA à l'Académie du Climat.
Et je crois que demain, il y a un événement aussi, demain, je crois.
C'est ça. Il y a une table ronde autour des sujets de l'alimentation.
D'accord. Et le 18 janvier, juste pour le préciser exactement, à l'Académie du Climat, ça va être quel format ?
Alors, ça va être des formats. On est encore en train de le définir.
D'accord.
Mais l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des interventions autour de l'alimentation, d'essayer d'avoir, de présenter un peu ces différents sujets. Donc, on est encore en train de trouver les bonnes formats.
Super. Merci en tout cas Margot Varache pour cette première partie. L'entretien de la matinale se poursuit après une pause musicale sur Radio Campus Paris. Nous écoutons You de J.Do Heart. De retour dans le studio direct de Radio Campus Paris, au cœur de la matinale de 19h.
Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et ce soir, dans l'entretien de la matinale avec Philippe, on échange avec Margot Varache au sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Margot Varache, est-ce que vous pouvez nous détailler le volet éducation populaire de l'action menée par la Marmite Rouge?
Oui, alors l'action principale, c'est de sensibiliser et de former et d'animer des fresques autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est un atelier qui dure 3 heures avec une première partie où on va revoir et comprendre quels sont les différents acteurs pratiques et effets de ces pratiques du système agroalimentaire aujourd'hui, quelles sont les limites, provoquer le débat et échanger entre les différents participants. Et la deuxième partie, elle est concentrée sur les solutions et les solutions que nous, on envisage un modèle de SSA et à quoi ça pourrait correspondre et se mettre en place à l'échelle d'une caisse de Paris, par exemple. Donc ça, c'est des ateliers qu'on donne une fois par mois à l'Académie du Climat ou dans d'autres endroits, comme récemment, on l'a fait à la Commune Libre d'Aligre. Et on le donne aussi en tant que formation auprès de différentes associations qui nous sollicitent. Donc on reçoit tout un tas de sollicitations de collectifs en fait qui entendent parler de SSA et veulent le mettre en place. Donc c'est super de voir que cette idée parle et résonne. Et derrière aussi on peut donner des formations, donc notamment en ce moment Copain, on peut donner des formations auprès de cette association pour qu'ils s'approprient cet enjeu et ce concept. Et puis voilà, près de... Donc si certains collectifs veulent en savoir plus, on peut intervenir pour mettre en place ça.
Sur le site de Sécurité sociale de l'alimentation ou sur le site aussi de la Marmite Rouge.
Tout à fait.
Quel est le retour des participants de manière générale et surtout des différentes tranches d'âge? Qui est sensibilisé et quel est le retour en fonction des tranches d'âge?
Alors, c'est vrai qu'on a vraiment des tranches d'âge très différentes. Ça a des étudiants aux retraités, en général. À l'Académie du Climat, où les personnes qui viennent à nos fresques, c'est plutôt des publics sensibilisés. Donc, on a très peu de personnes qui sont réfractaires, on va dire. Donc, c'est plutôt des personnes qui sont déjà sensibilisées aux sujets environnementaux et sociaux. Donc, plutôt réceptif. Ce qui ressort, c'est déjà dans la première partie un sentiment un peu d'énervement, de colère parfois face à ce qu'on constate. Mais dans la seconde partie, plutôt de l'espoir et de l'envie de rejoindre ce projet. Donc, c'est ce qui est intéressant auprès du projet de SSA, c'est qu'on milite pour quelque chose et pas forcément contre, même si ça part d'un constat d'être contre certaines pratiques. Mais les personnes en général, moi j'en ai animé déjà 5-6, c'est toujours assez positif, ça donne envie d'agir.
Super.
On en a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut y revenir sur cette fresque de la sécurité sociale, de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez détailler? Sinon, j'ai d'autres questions que j'ai trouvées dans votre boîte à questions, là, qui sont aussi très intéressantes. Par exemple, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter les revenus, tout simplement, plutôt que de... Ça, c'est une question qui est posée dans la boîte à questions. Et aussi, votre rapport par rapport à la lutte contre la pauvreté.
Alors, beaucoup de questions.
Oui.
Sur la fresque, j'en ai déjà parlé.
Sur votre site, il y a énormément de questions.
C'est pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas juste les revenus. L'idée, c'est d'essayer, via la cotisation, de mettre en commun la valeur ajoutée sur le travail et que ce soit derrière collectivement décidé qu'est-ce qu'on en fait et de flécher ces revenus, de flécher cet argent vers des producteurs, des commerce ou des produits qui sont plus vertueux d'un point de vue collectif.
Ils sont bio.
Alors bio, c'est ce que moi j'aurais envie de conventionner, mais ça peut être pas forcément le cas en fait. Parce que aussi ce qui est important à dire, c'est que dans ces collectifs, ça permet de... C'est pas forcément ce qu'une personne décide. Si on veut revenir sur pourquoi pas les... juste augmenter les revenus, c'est que ça ne change pas forcément les moyens de production. Ça ne va pas forcément permettre d'encourager certaines pratiques. Ce serait que résoudre une partie du problème.
Là, on parle bien d'une réflexion, une réflexion à l'échelle du collectif et aussi à l'échelle de l'association. Pour revenir aux expérimentations qui sont menées, il y a aussi les caisses citoyennes de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, du coup, les caisses dans les différentes expérimentations, les caisses, ce sont donc le collectif qui va décider. Donc, les expérimentations aujourd'hui, elles sont entre eux, ça correspond à 30 à 300. Participants. Et au sein de ces participants, un nombre plus réduit va composer la caisse. Et ils vont se réunir. Donc au début, ils vont suivre un parcours d'engagement qui peut durer plusieurs mois, voire un an, en fait, parce que ça peut être très long, où ils vont se former à ces thématiques. Comment est produite l'alimentation aujourd'hui? Qui sont les différents acteurs? Comment ça fonctionne? Ils vont aussi se réunir après, peut-être une fois par mois, on va dire, pour décider collectivement de quels vont être les critères de conventionnement, où est alloué l'argent. Est-ce que l'argent, il va que sur les cartes vitales de l'alimentation, ou est-ce qu'il permet aussi à conventionner, à financer la transition de certains acteurs? Parce qu'aujourd'hui, l'offre ne permettrait pas forcément de répondre à tous les critères, mais ça pourrait être de dire, si demain vous voulez être conventionné, il faudrait mettre en place tel et tel critère, et donc on peut vous aider à transitionner vers ces critères. Donc ça, c'est la caisse, elle va décider de quoi faire de l'argent concrètement. Et puis voilà.
Alors j'ai pas compris qui est destinataire des caisses, qui va expérimenter les caisses.
Alors ce sont les habitants d'un territoire.
D'accord, ce sont les habitants d'un territoire.
C'est ça. Donc un peu comme à l'échelle, l'échelle des étudiants.
Oui.
Tous les étudiants peuvent en bénéficier, mais seulement certains vont siéger. Ça peut être des personnes tirées au sort, par exemple, qui siègent dans ces caisses et qui vont se réunir régulièrement. Ça peut être aussi des personnes qui tournent, donc ça peut être chaque année ou pour un mandat d'un an, par exemple. Encore une fois, ces modalités sont testées dans différentes formes. Et quand on aura un retour d'expérience assez suffisant, on pourra voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
Super. C'est sur la base du volontariat?
Pour l'instant, oui.
Les caisses?
Oui.
Oui. Alors justement, quels sont vos moyens de communication justement pour faire connaître vos modes d'action, pour vous faire connaître?
Alors, la Marmite Rouge, on a donc des réseaux sociaux et des événements et la fresque pour nous faire connaître. Je ne peux pas forcément parler au nom du reste du collectif national, mais c'est du plaidoyer après, derrière, et certains sont... en échange avec certains députés pour porter ce projet.
Ah oui, vous avez mentionné les députés, mais une des questions aussi, c'était de savoir comment est-ce que le collectif, en tout cas les actions du collectif, sont reçues par l'État, les collectivités territoriales. On pense à la ville de Paris, mais vous mentionnez aussi l'Est parisien. J'avais la question, par exemple, de la métropole du Grand Paris, peut-être des établissements publics territoriaux. Quel est un peu le retour de tout ça?
Alors, nous, on n'a pas forcément d'échange ou de contact avec tous ces organismes, mais je sais que certaines mairies d'arrondissement ont commencé à le mettre en place. Donc, il y a la mairie du 20e, je crois du 18e, du 14e, qui essaie de le mettre en place à leur échelle. Après, dans certaines modalités, nous, on n'est pas forcément toujours d'accord avec toutes les modalités, donc on préfère voir ce qui se passe et on peut intervenir si besoin pour former, mais nous, on n'est pas forcément en contact direct avec ces organisations.
D'accord, très bien. Et je voudrais revenir à un point qu'on a abordé dans la première partie de l'entretien, c'était sur l'élargissement de la sécurité sociale. Ça aussi, c'était pour la partie financement. Quelle est un peu la vision, en tout cas, du collectif aujourd'hui pour pouvoir financer cette idée politique?
Pour revenir sur la partie sécurité sociale, on est parti de l'idée de la sécurité sociale de la santé à son origine, donc plutôt en 1945-46 à son fondement,
46,
oui. Où c'était principalement des syndicats et des représentants des syndicats qui siégeaient dans les caisses pour décider des critères de conventionnement de la santé. Aujourd'hui, on peut pas forcément, un citoyen avec sa carte vitale de la santé choisit pas du tout quels sont les médicaments conventionnés. Ça a été repris beaucoup par l'État qui décide de son fonctionnement. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant un élargissement du système actuel, mais plutôt repartir des bases et du coup, du côté démocratique qu'il y avait à l'origine. Et sur le financement, je pense que ça a été estimé, donc si on part à 150 euros par personne, ce montant est en train d'être vu potentiellement à la hausse. Oui. Ce serait environ 120 millions d'euros de fonctionnement. Et donc, tout ça, ça pourrait être financé par des cotisations des différents travailleurs et travailleuses. Donc, plutôt via des cotisations.
Donc, ce serait une nouvelle sécurité sociale qui serait créée et pas du tout un élargissement pardon, au sens premier, comme on l'entend.
C'est ça. Après, dans la loi, je ne suis pas du tout une experte de ces sujets, donc je préfère pas dire de bêtises.
On va devoir arrêter l'entretien, mais en tout cas, on vous remercie d'être passé dans la matinale, Margot Varache, donc membre du collectif La Marmite Rouge, qui est membre du collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation, on l'a compris, avec une trentaine d'acteurs. On avait plein de questions. Je pense que c'est un sujet qui intéressera beaucoup d'étudiants. Donc, on va essayer de suivre ça de très près. En tout cas, à titre personnel, ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup.
Merci.
La matinale se poursuit après une pause musicale sur Radio Campus Paris. Nous écoutons le très, très grand Kendrick Lamar qui chante « Man at the Garden ».
And less enemies, stock investments, more entities. I deserve it all. VVS's white diamonds, GNX with the seat back reclining, bitch. I deserve it all. Put my homes on a beachfront, flying private. What you eat for lunch? I deserve it all. The respect and the accolades, lamping on the island, watching Castaway. I deserve it all. For every good nigga that passed away, sent 2.5 million on the average day. I deserve it all. Keep my name by the world leaders. Keep my crowds loud inside a beast. I deserve it all. More money, more power, more freedom. Everything heaven allowed us, bitch. I deserve it all. I deserve it all. Intentions was pure, even when you wasn't sure, even with every allure, how much temptation you endured, you probably look for every cure. I said I deserve it all. I'm waking up at 6 a.m. 6 miles a day conditioning my wind. I said I deserve it all. I'm showing up as your friend, telling truths better than your next of kin. I said I deserve it all. I never ask for too much credit, seeking validation just for the aesthetics, bitch. I deserve it all. I see you as a human first, even when you didn't understand your worth, bitch. I deserve it all. It's innate to mind my business, writing words, trying to elevate these children. That's why I deserve it all. Pray for those who prayed against me, every reason why my ancestors sent me, bitch. I deserve it all. I deserve it all. I deserve it all. 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 Put a smile on my mama. Good health and good karma. Yeah, she deserves it all. 100 murals out in Compton. Remember me, I kept my promise. Yeah, we deserve it all. A better life for my daughter. May my son take it further than his father. Yeah, he deserves it all. A close relationship with God whispered to me every time I close my eyes. He said, you deserve it all. Keep these bitch niggas away from me. Keep all my blessings faithfully. Keep my essence contagious. That's okay with me. I burn this bitch down. Don't you play with me and stay with me. I'm crashing out right now. No one's safe with me. I did it with integrity and niggas still try hate on me. Just wait and see. More blood be spilling. It's just paint to me. Dangerously, nothing changed with me. Still got pain in me. Flip a coin. Want the shameless me or the famous me? How annoying does it angers me to know the lambs can speak or the origins of the game I breathe? That's the same to me. It's important. I deserve it all because it's mine. Tell me why you think you deserve the greatest of all time, motherfucker. I deserve it all. I deserve it all.
Man at the Garden de Kendrick Lamar sur Radio Campus Paris. Vous écoutez La Matinale.
La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
La première chronique de la matinale, c'est celle de Fabien. Comment ça va ?
Eh ben très bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir.
Eh ben c'est super, dis-nous tout.
Alors, on va commencer justement par une patinoire. C'est la plus grande patinoire intérieure au monde, qui est de retour pour une 6e édition. Et donc, c'est sous la nef du Grand Palais. Et donc, elle enchantera sûrement les Parisiens à l'orée des fêtes de fin d'année. Au programme, il y a 3000 mètres carrés de glisse, mais aussi de quoi en prendre plein les mirettes. En levant les yeux au ciel, la majestueuse verrière du Palais du Grand Palais a été entièrement rénovée. Au centre de la piste, une œuvre monumentale encore tenue secrète. Donc, vous la découvrirez quand vous y irez. On se souvient par exemple de l'œuvre XXL de Richard Orlinski aux formes d'ours polaires, qui était là lors de la 4e édition. Et à la nuit tombée, changement d'ambiance. Une fois n'est pas coutume, la plus grande patinoire du monde se muera en dance floor. Au menu de ces nocturnes, DJ set, Good Vibe et Boule à facettes, disco. Et si tout ça vous met l'eau à la bouche, dans ce cas, vous n'avez plus qu'à attendre l'ouverture de la billetterie et vous pouvez réserver directement vos places en ligne sur le site du Grand Palais des Glaces. Pour chaque jour, vous pouvez choisir entre 3 créneaux, de 10h à 13h, de 14h à 19h et de 20h à 2h. Et entre plusieurs tarifs, de 15 à 18 euros pour les moins de 10 ans et 20 à 25 euros pour les adultes. Prix unique pour les nocturnes, c'est de 36 euros. Alors un conseil, n'attendez pas trop car les places vont partir très très vite. Alors c'est du 13 décembre 2024 au 8 janvier 2025. C'est au Grand Palais des Glaces et c'est 3 avenue du Général Henswood dans le 8e arrondissement à Paris. Et enfin, donc, à partir du 20 décembre prochain, un train direct reliera Paris et le Mont-Saint-Michel pour 29 euros. Vous partez directement depuis la gare Montparnasse et un train direct pour le merveilleux Mont-Saint-Michel vous emmènera au Mont-Saint-Michel. C'est l'occasion de s'offrir une visite du génial monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 79 quand même, le tout sans se ruiner puisque les billets, comme j'ai dit, sont disponibles à partir de 29 euros. Ça comprend la navette entre la gare de Pont-Torson où vous arrivez et le monument. Et ça vous donnera alors accès à ce lieu iconique. C'est mis en place tous les vendredis, les samedis et les dimanches, donc les week-ends. Ce service du week-end, il vient compléter l'offre de cars nomades qui réalise ce trajet du lundi au vendredi. Donc c'est l'occasion de découvrir, donc comme moi je le ferai, ou redécouvrir ce véritable trésor du patrimoine français. C'est un joyau unique en son genre. Il rayonne dans le monde entier, il est vraiment connu partout. Et c'est donc déjà grâce à sa situation géographique et à son architecture hors du commun. Et une fois là-bas, vous pourrez entre autres, par exemple, profiter du magnifique village et de ses remparts, vous cultiver grâce au musée du Mont, mais aussi et surtout vous émerveiller au sein de d'une des plus belles abbayes du monde. C'est mon avis, hein. Donc c'est à partir du 20 décembre 2024, c'est tous les week-ends, le prix c'est 29 euros et c'est au départ de la gare Montparnasse. Et enfin, pour la 13e fois, Provins accueille cet hiver son marché de Noël médiéval. Cracheurs de feu, troubadours, jongleurs. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la richesse de son patrimoine, la ville de Provins est un véritable joyau médiéval à seulement une heure de Paris. Et on peut y aller en train sans aucun problème. Des incontournables Tours César aux Grands Jodimes, en passant par ses remparts ou ses nombreux spectacles mettant en scène des aigles, des chevaliers, des troubadours, Provins vous catapulte littéralement au Moyen-Âge. Place aux festivités, les 14 et 15 décembre 2024, l'association Les Gardes-Foires de Champagne vous convie à la 13e édition de son marché médiéval. Lors du marché Noël de Provins, plus de 60 artisans démonstrateurs vous feront voyager à travers le temps. Cracheurs de feu, troubadours, jongleurs, un marché ludique et authentique s'annonce en ville haute. Pour que l'immersion au Moyen-Âge soit totale, des campements, démonstrations de forges et ateliers sont prévus. Fabrication de bourses en cuir, stands de maquillage, tir à l'arc, balade en poney, etc. Le marché de Noël de Provins aura de quoi ravir tout le monde. Mais les festivités ne s'arrêtent pas là. En plus du marché de Noël, un bal médiéval, des spectacles de feu et un spectacle de crèche vivante de Saint-François vous attendent. En plus de ces événements gratuits, des ateliers passionnants seront au programme moyennant quelques écus. Ne vous affolez pas, ils acceptent aussi les euros. Hein. Donc la 12e édition du marché médiéval de Provins, c'est les 14 et 15 décembre 2024 et l'entrée est bien entendu gratuite.
Et donc j'ai bien compris, on paye 36 euros pour aller danser sur le dance floor du Grand Palais.
Ah ça, t'as retenu. Hein.
Ah ouais, ça m'a un peu choqué. Allez. Et le Zoom de ce soir, c'est avec toi, Léa. Est-ce que tu vas bien ?
Ça va bien, et toi ?
Bah, ça va, très grande forme. Et tu reçois ce soir ?
Je reçois ce soir Thiago Caetano. Echo d'Abaïa, voilà un titre qui évoque la chaleur, le soleil et la douceur de la vie. Il s'agit du premier album de l'artiste franco-brésilien, donc Thiago Caetano, sorti en novembre dernier. Salut Thiago.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Écoute, super. Comment on se sent au lancement de son premier album ?
Ça fait toujours quelque chose évidemment, un premier album. Très bien, j'ai eu l'occasion de me produire à la suite de la sortie de l'album aux Trois Baudets la semaine dernière. Et du coup, c'est passé des très belles choses, ouais, ces derniers temps.
Alors, on parle de premier album, mais en réalité, c'est pas ton premier projet musical que le grand public peut écouter. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nouvel album ?
C'est le premier album qui porte mon nom, déjà, Thiago, qui est mon nom. Et Caetano, c'est le nom de famille de ma mère. Et il est différent dans le sens où, auparavant, je faisais de la musique un petit peu plus pop, indie pop, je dirais. Aujourd'hui, c'est un peu plus proche de mes racines, donc un peu plus proche de la musique populaire brésilienne.
D'accord.
Donc, voilà, la particularité, c'est que je me suis vraiment rapproché de la musique populaire brésilienne.
Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement dans ta carrière musicale ?
Ça a été des voyages au Brésil, le fait d'écouter énormément de musique populaire brésilienne, et une maturité musicale, je dirais.
D'accord. Donc, musique populaire brésilienne ou MPB, comme parfois on peut le lire dans plusieurs articles, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus précisément à quoi ça correspond comme style musical ?
La musique populaire brésilienne, elle s'est développée énormément dans les années 60-70 par le biais d'artistes comme Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Ces artistes brésiliens qui ont fait émerger cette scène et c'est de la musique qui est très inspirée des musiques traditionnelles, donc de la samba. Mais c'est pas tout à fait de la musique traditionnelle. Il y a vraiment un côté FM, un côté pop, quoi.
D'accord.
Avec des morceaux de 3-4 minutes. Et c'est le moment où il y a une scène qui a vraiment émergé. Ils ont appelé ça la MPB, quoi.
Et donc cette scène-là, elle t'a attiré. Qu'est-ce qui t'a attiré de toi ? Pourquoi t'as voulu te mettre plutôt dans cette direction-là ?
Parce que j'aime énormément cette musique. Ma mère m'a fait écouter énormément de MPB quand j'étais plus jeune. Enfin, même depuis ma naissance, en fait, j'en écoute. Et parce que je trouve que c'est de la musique très intéressante aussi à un point de vue structurel, c'est des structures assez spéciales. Et le fait qu'il y ait une influence de musique traditionnelle, j'aime beaucoup la samba aussi, donc pour moi ça résonne beaucoup. Ouais.
Tu nous as évoqué déjà deux fois ta maman, c'est important pour toi qu'elle soit présente comme ça dans ton identité musicale ?
Mais c'est marrant parce que c'est presque de l'inconscient. J'ai passé beaucoup de temps avec ma mère, parce que ma mère garde des enfants. Et du coup, j'étais tout le temps à la maison. Moi, j'ai pas eu l'adolescence où le samedi soir, mes parents, enfin pas le samedi, mais plutôt, je sais pas, le mercredi après-midi, tu rentres du collège, t'es content. Moi, il y avait toujours des enfants et ma mère qui était là. Donc j'ai de la chance, c'est que ma mère, elle a été super. Enfin, c'est une femme géniale, donc. Donc ouais, c'est très important pour moi, évidemment, de parler, parce qu'elle fait partie, en fait, de l'histoire de mes projets musicaux, pour moi. C'est partie intégrante de ça, donc...
Et dans ce nouvel album, donc, on peut découvrir des titres uniquement chantés en portugais. Est-ce que c'est un choix voulu ?
Oui, c'est un choix voulu. Il y a un moment, je dis une phrase en français dedans, sur l'intro d'un morceau, mais on n'entend pas très bien. Mais oui, c'est un choix voulu, c'était un défi pour moi. Ça a toujours été un défi de chanter portugais pour moi... Parce que oui, c'est vraiment artistique, quoi. Je trouve que c'est une langue toutes les langues ont une musicalité, je trouve, et le portugais a une musicalité que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une langue très rythmique. Ils utilisent beaucoup c'est très rythmique, quoi. Le français a vraiment une autre musicalité. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de jouer avec cette particularité-là.
Et ça t'a pris du temps pour apprendre à écrire portugais et ensuite à chanter portugais ?
L'écriture, ça m'a pris un peu de temps parce que le portugais, je le comprends depuis que je suis enfant. J'ai commencé à vraiment le parler quand j'étais adolescent. Et l'écriture, du coup, je me suis mis à l'écriture et il y a des mots, je ne savais même pas, je les prononçais, mais je ne savais même pas comment ils s'écrivaient. Et donc, évidemment, ça m'a pris du temps et c'est toujours un exercice qui n'est pas évident, mais que j'aime beaucoup.
D'accord. Et donc, tu as fait ce voyage au Brésil pendant 6 mois pour pouvoir ensuite créer Echo da Bahia. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce voyage là-bas ? Qu'est-ce que tu as ramené dans les valises et que tu as mis dans ton album ?
J'avais un carnet sur moi et j'ai noté énormément de pensées que j'avais pendant mon séjour et des idées.
Elle s'articulait autour de quoi ? C'était quoi les idées que tu avais quand tu étais là-bas ?
C'était vraiment, il y a de tout, absolument tout. Ça peut être juste des choses, je sais pas, ça peut être de la philosophie dans ma tête, comme ça peut être le nom d'une personne qui m'a inspiré pour pas l'oublier, comme ça peut être. Un petit dessin, je dessine super mal, mais je sais pas, je dessinais dessus. Et...
On ne dessine jamais mal. Si. J'ai appris ça en lycée, jamais.
Franchement, si. Et puis, j'ai enregistré aussi énormément avec un zoom. Et on entend d'ailleurs dans l'album, si vous tendez un peu l'oreille, surtout souvent dans les intros de morceaux, il y a des...
Un zoom, c'est un enregistreur. Voilà.
Tout à fait, oui, un zoom. Des fois, même avec mon téléphone, ça dépendait. Mais ouais. Avec un enregistreur, j'enregistrais des ambiances, des sons, des aboiements de chiens, à peu près tout ce qui m'inspirait. Quoi.
Des ambiances sonores.
Tout à fait.
Et donc, le Brésil fait partie de ton histoire familiale. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette part-là de ton identité ?
Depuis mon enfance, à vrai dire, j'y vais au Brésil depuis que je suis enfant assez régulièrement. Donc, à chaque fois qu'on y allait, c'était pour moi le grand moment de l'année que j'avais trop hâte d'y retourner, de voir ma famille, tout ça. Donc ça, depuis l'enfance.
Ok. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on ressent énormément dans ta musique. Si là, aujourd'hui, on veut aller te voir jouer sur scène, on fait comment ?
On peut venir me voir le 13 décembre. Je joue pour un artiste qui s'appelle Bruno Berli, qui est un artiste brésilien qui joue au Studio de l'Ermitage. Donc j'ouvre pour ce concert. Le lendemain, je serai à La Rochelle, le 14 décembre. Et la suite à venir.
Et comment tu as rencontré cet artiste-là ? Comment t'es devenu sa première partie ? Quel a été le parcours un peu ?
C'est un artiste je connais des gens au Brésil qui le connaissent et ça fait un moment que je le suis. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré son agent avec qui j'ai discuté. On a bu un café et voilà, ça s'est fait un peu par des contacts, quoi. Tu connais des gens, tu rencontres des gens un peu dans ton réseau. Enfin, c'est du réseautage, hein, comme dans beaucoup de métiers.
Ouais. Et il a apprécié ton projet musical, justement.
J'espère qu'il a. Non, je pense que oui, dans le sens où il a accepté que je fasse la première parce qu'on lui a proposé. Je pense qu'il y a dû avoir d'autres propositions, mais pour l'instant, je ne le connais pas. Mais j'espère qu'il a apprécié. Ouais.
Ouais. J'avais une question qui m'est revenue en tête. Je n'arrive pas à voir comment t'es passé de l'indie pop au MPB. Comment ça s'est fait progressivement ?
Mon album, c'est pas uniquement de la MPB. On sent quand même qu'il y a une touche un peu indie pop. Moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais de la musique brésilienne, mais j'écoutais aussi énormément des artistes comme Mac DeMarco, toute cette génération à l'époque, il y avait enfin, il y a toujours ces labels, Capture Tracks, ce genre de label qui avait une vibe très particulière. Et dans mon album, ça s'entend quand même un peu. Il y a des synthétiseurs analogiques, des trucs un peu.
Parce que les artistes que tu cites là, ça correspond à quelle année, nous qui sommes français, qui avons grandi très très loin du Brésil et qui n'avons pas cette culture.
De la MPB, tu veux dire,
les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Oui, complètement.
C'est les années 70 principalement, mais après, c'est
70,
des gens. Ouais. Ces artistes qui ont des carrières tellement longues que c'est franchement des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Gilberto Gil, il était l'année dernière, il me semble, à la Philharmonie de Paris. Mm-hmm. Caetano Veloso, il a joué pareil, il a joué à la Philharmonie, je crois. Tous ces artistes-là, ils ont des carrières dans le monde entier. Donc,
Et tu dirais que tu mets ta musique au service de ce style musical, que tu fais grandir ce style musical ?
Ah, je me permettrais pas de dire ça. Disons que j'essaye de. C'est même pas j'essaye, c'est juste de la composition. Donc tu te poses pas de questions, tu fais. Et puis un jour, si ça rentre dans les livres.
Ça apporte quelque part ta petite pierre à l'édifice aussi.
Bah, j'essaye, mais c'est vrai que je le pense pas comme ça. Je me dis juste. C'est un process très simple dans ma tête. Hein. Je compose en portugais parce que ma mère est brésilienne et parce que c'est une langue qui me touche et que j'aime. Et voilà. Mais oui, on peut dire que j'apporte un petit peu. Mais c'est marrant parce qu'il y a une prof, une dame qui faisait des études, qui m'a contacté. Et en fait, elle recense tous les artistes en dehors du Brésil qui ont fait des albums en portugais.
Ah.
Et elle m'a dit que c'était pour de la recherche. Et du coup, elle m'a contacté et j'ai envoyé toutes mes infos. Et je trouvais ça marrant du coup. J'ai eu l'impression de mettre une pierre dans l'édifice du coup.
Et elle a un projet après pour plus tard ?
Je sais pas exactement c'est quoi le projet. Je lui ai dit de me contacter dans le cas où si elle a besoin de quoi que ce soit, parce que moi je suis en France, donc peut-être qu'il y a aussi d'autres artistes qui chantent en portugais ici. Donc, mais ouais, intéressant.
Bon bah c'est cool, merci à toi en tout cas d'être passé dans la matinale.
Merci à toi,
Léa, pour ce zoom. Et on va écouter un de tes titres. Alors, spoiler alert, j'ai posé la question. Donc, si j'ai bien compris, c'est So Quero Viver, donc de Thiago Caetano.
E foi. lado. En cada gota un poema. O futuro e o presente finalmente se desejam.
Soquero Viver de Thiago Caetano, vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en DAB+ sur le canal Campus.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et elle gère tellement le micro que je vais lui laisser tout simplement la parole. Léa.
Merci. Avenir, avenir, où en sommes-nous sur la question du choix des études en France ? Sujet un petit peu sérieux. On parle des réorientations dans les études.
Moi, ça me va très bien.
Allez,
on se fait quand même
un petit point. Voilà ce que j'ai à dire. Un peu moins de 20% des étudiants changent de filière au cours de leurs études supérieures. Et c'est peut-être votre cas, vous qui nous écoutez. Selon le gouvernement, la réorientation est une tendance grandissante qui touche un peu plus de jeunes chaque année. Et c'est parfois compréhensible car le choix est large. Université, école privée, formation professionnelle, cursus court ou long, parcours théorique ou professionnalisant, les possibilités sont sans fin lorsqu'il s'agit d'études supérieures. Alors, comment trouver sa voie au milieu de ces labyrinthes diplômants ? C'est en réalité une question complexe. À 18 ans, il y a certes le bac, mais il y a surtout le choix d'orientation après le lycée. Pour la plupart des jeunes, ce qui motive le choix d'orientation en premier lieu, ce sont d'abord les centres d'intérêt. Le projet professionnel et les débouchés sont ensuite mentionnés, mais n'arrivent qu'en second lieu. Une enquête IFOP s'est penchée sur la question et a interrogé plus de 1000 étudiants âgés entre 17 et 22 ans. Alors, qu'apprend-on ? 63% des jeunes choisissent leurs études d'abord par rapport au contenu de leur formation, puis en fonction de la localisation. À leurs yeux, pendant le cursus, ce qui est le plus important, ce sont les stages. Puis ensuite, il parle de l'importance du réseau. Il semblerait donc que le terrain est tout de même au cœur des préoccupations des jeunes, peut-être parce qu'il vient à manquer dans plusieurs formations, parfois jugées trop théoriques. Sinon, de manière générale, les jeunes étudiants en premières années portent un regard optimiste quant au champ des possibles après leur diplôme, ce qui est un peu moins le cas pour les plus âgés. Concernant le choix des études, un quart des jeunes optent pour le mimétisme familial et enfin près d'un jeune sur deux a déjà éprouvé un regret concernant son orientation. Ça fait pas mal de données, n'est-ce pas ?
Un peu mal à la tête.
Un peu mal à la tête, mais c'était nécessaire de le dire. Et pour rebondir sur la dernière, sur celle du regret, il est parfois tellement fort chez certains qu'il engendre une réorientation. Alors pourquoi un tel choix ? Des témoignages évoquent qu'une différence entre ce qui est présenté de la formation et la réalité des cours en décourage plus d'un. Ou encore une différence entre le contenu de la formation globale et la réalité du métier derrière, qui n'a parfois rien à voir. Ces écarts entre les attentes et le terrain provoquent un désintérêt général pour la formation et par conséquent une absence de projection dans le futur. Vient donc le choix de la réorientation qui n'est pas toujours simple à enclencher. Chez ceux qui ont sauté le pas, certains portent un regard négatif sur leur changement de voie. Ils parlent d'années perdues ou d'erreurs de parcours. La peur de décevoir les proches ou encore manque de ressources financières peuvent être des freins au passage à l'acte, rendant le changement difficile. Et pour d'autres, c'est une libération. À leurs yeux, changer de voie est une opportunité d'améliorer leur situation et d'entrer dans quelque chose de concret. Ils donnent, grâce à ce tournant, un nouveau sens à leur vie professionnelle, les convertissant en de futurs pros passionnés de leur domaine. Pour ceux qui sautent le pas et se réorientent, des passerelles existent pour la plupart des parcours scolaires. Ainsi, il est possible de se réorienter dès la première année, en cours de cursus ou en plein milieu de parcours, à n'importe quel moment. Le système de crédit européen, les ECTS, permet notamment un passage facilité d'une filière vers une autre sans avoir à recommencer un cursus entier depuis le début. Cependant, la question de la réorientation est une question bien plus large que celle de l'éducation et du diplôme. Elle parle de travail, elle parle d'identité et même de structure sociale. Alors en attendant de savoir ce qu'on va faire quand on sera plus grand, je vous laisse méditer sur cette question de la réorientation.
Parce que de toute façon, on a la vie entière pour faire ça. Merci beaucoup Léa. Et c'est ta chronique qui va clore la matinale de ce soir. Pêle-mêle, merci à Alice, Fabien, Joey, Léa, Maïwen, Philippe. Pour vos rôles respectifs, l'équipe de la matinale vous retrouve demain. Les autres matinales sont disponibles sur radiocampusparis.org. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.